Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour et bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête, une émission littéraire mais pas que, émission enregistrée au Festival du premier roman et des littératures contemporaines et organisée par l'association Lecture en tête en partenariat avec l'autre radio. Le festival a lieu du 24 au 27 avril 2025 au 40 à Laval. Et nous sommes en direct, d'où le bruit ambiant. Aujourd'hui, nous recevons Karim Khatan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain palestinien, né en 1989 à Jérusalem et vous avez grandi à Bethléem. Vous vivez en France depuis une quinzaine d'années et vous êtes docteur en littérature comparée. Et surtout, vous êtes un habitué du festival puisque vous êtes venu pour chacun de vos livres. Et vous venez cette année pour nous parler de L'Éden à l'aube, qui a été publié en 2024 aux éditions Elizade et qui a reçu le prix de deuxième roman cette année dans le cadre du festival. C'est votre quatrième livre, donc votre premier préliminaire Vers un verger futur en 2017, recueil de nouvelles, Le palais des deux collines en 2021, premier roman, et puis Hortus Conclusus, qui est sorti, il me semble, hier.
C'est ça.
Aux éditions L'Extrême Contemporain, qui est un recueil de poèmes. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander comment s'est passée la résidence à laquelle vous avez été en 2023, qui était proposée par Lecture en Tête, et pendant laquelle vous avez écrit une partie au moins de votre roman.
C'est difficile de parler de cette résidence, tant elle a été un moment vraiment incroyable pour moi. Peut-être... Pour y répondre, je vais dire que donc là, j'arrive à Laval. Je suis là depuis 2 heures. J'ai l'impression de rentrer à la maison. C'est quand même ça. C'est vraiment fondamentalement ça. C'est-à-dire que la résidence, elle se déploie sur un temps long. Donc en fait, le temps long, il permet à la personne qui écrit d'avoir le temps de travailler sur son texte. C'est hyper rare. C'est hyper rare d'avoir le luxe du temps de ce travail. Mais elle permet aussi de tisser des liens avec le territoire. Parce que donc une partie de la résidence, c'est les activités qu'on organise autour de l'écriture. Donc ça va être des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, des rencontres littéraires un peu partout sur le territoire mayennais, donc dans plein de médiathèques, d'espaces en tout genre. Et donc en fait, j'ai eu la chance de découvrir et de parcourir et de commencer à connaître la Mayenne en général, qui est un endroit que je ne connaissais pas du tout que je connaissais par le festival et par la résidence. Et donc ça a créé un rapport très proche, je pense, quand même, à ce territoire, un rapport que j'ai envie d'entretenir. J'ai envie que ça continue. Donc voilà, la résidence, d'une part, elle a permis ça, et puis elle a permis... Alors, j'ai pas écrit L'Éden à l'aube en résidence, mais quand je suis venu en résidence, c'était vraiment le moment où je reprenais, où j'étais dans la correction du manuscrit. Juste une correction de manuscrit, c'est pas juste un moment où on est... de façon désinvolte, on finit. C'est vraiment le moment où le texte, il devient le livre. Et donc en fait, quand même, ça a été, c'est vraiment je trouve l'un des moments les plus importants de l'écriture, quoi. Et tout ça s'est fait en effet en entier, je crois, pendant la résidence ici. Donc c'est un moment, c'est central dans ce livre quand même.
Alors donc le roman, donc c'est une histoire d'amour entre deux jeunes Palestiniens, Isaac et Gabriel, qui vont tenter de vivre leur amour sur fond de conflit israélo-palestinien. Ils vont se perdre, se retrouver, rêver, voyager au gré des checkpoints et de tous les obstacles qu'implique l'occupation. C'est un roman poétique, sensible, sensuel, où l'imaginaire se mêle à la réalité et où le divin s'invite dans des phrases banales d'humanité. Alors la première question que j'aurais, donc, c'est le narrateur, qui est le ciel, mais pas Dieu. C'est un narrateur omniscient, mais pas tout à fait. Et un narrateur très taquin. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Quand on écrit, on expérimente avec des choses. On a toujours une intuition ou plusieurs intuitions, puis on expérimente avec l'intuition pour voir si ça donne quelque chose. Et l'une des intuitions que j'avais au début de l'écriture de ce roman, c'est que j'avais envie que la chose qu'il raconte, ce soit une chose, enfin ce soit une entité non humaine, peut-être un animal, peut-être, enfin bref, je suis passé par plein de types de narrateurs différents, mais le ciel s'est très rapidement imposé, et comme tu dis justement, le ciel n'est pas Dieu, enfin on est dans un ciel, le firmament, quoi, parce que ça permet, entre autres choses, mais ça me permettait de jouer avec des tons très différents, de jouer avec ce narrateur omniscient qui ne l'est pas vraiment, donc qui est quand même un peu voyeur, en fait, parce qu'on est quand même dans un roman d'amour, donc il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des intérieurs, et le ciel doit décrire comment il arrive à regarder l'intérieur, et donc il nous amène avec lui dans son regard. On parle de la Palestine quand même, donc d'un territoire archipélisé, complètement morcelé par une occupation, par un apartheid et par une colonisation. Et donc en fait, le ciel, c'est quand même le truc qui est, on va dire, en regard de tout ça, qui inscrit la Palestine dans un temps plus long, qui n'est pas que le temps du moment politique, mais qui voit plus, enfin, ça amène un souffle en fait différent, et ça regarde ce morcellement, mais lui n'est pas morcelé, donc il permet d'embrasser le territoire un peu de façon entière. Et ça permet de faire pas mal de choses en tant qu'écrivain et en tant que palestinien, en fait, d'avoir cet imaginaire-là.
C'est un roman qui a été écrit, donc pour contextualiser, avant le 7 octobre 2023. Et vous aimez le rappeler. Pourquoi ?
En fait, je le rappelle parce que je dois le rappeler, je pense. Parce que si je ne le rappelle pas, on peut avoir l'impression... On a eu l'impression, plusieurs personnes ont eu cette impression, que c'était un roman qui a été écrit presque en réaction à la période dans laquelle on est. Or, crucialement, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que moi, à partir de maintenant, tout ce que j'écris est nécessairement modifié en profondeur face aux événements. J'écrirai plus jamais de la même manière que j'écrivais avant. Et ça veut pas dire que ce que j'écrivais avant me paraît obsolète, mais c'est juste que c'est différent, c'est dans une période historique différente, et il me semblait crucial, il me semble toujours crucial, de rappeler que c'est dans une période historique différente. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que souvent on suppose qu'il y a une continuité, enfin on suppose que ça a été écrit après le 7 octobre. Ça veut dire aussi que de toute façon, on se situe dans une continuité. Enfin, je veux dire, les sujets qui sont les sujets politiques qui portent en partie les Nana l'Aube étaient vrais avant, le sont vrais encore plus aujourd'hui, en fait. Et rappeler juste que ça a été écrit avant, ça permet aussi d'établir cette continuité-là. Et donc voilà. Enfin, c'est important de le placer dans le moment de sa production. J'aurais pas pu écrire les Nana l'Aube aujourd'hui. Ça aurait été autre chose, en fait.
Et d'ailleurs, le roman n'a pas de date. Il n'est pas daté. On imagine, mais...
Oui. Pas de date précise. On comprend qu'il est, on va dire, enfin, il se passe à l'ère actuelle, on va dire, mais de façon très lâche, sans plus. En général, je fais ça, de toute façon. C'est-à-dire que, comme mes romans... Moi, je suis très attaché à la fiction. Donc, c'est des romans que je ne veux pas situer. Enfin, c'est très situé en Palestine, dans l'appareil militaire palestinien, enfin, de la Palestine. Mais c'est lâche. Ça pourrait être il y a 5 ans, comme théoriquement, ça pourrait être il y a 10 ans. Voilà.
Alors, c'est un roman qui est empreint de mystique, de mythologie, mais aussi très moderne. Et le récit est rythmé par des changements de registre, avec un vocabulaire riche, poétique, parfois familier, voire vulgaire. C'est touchant parfois, parfois c'est même gore, mais dans des moments inattendus. Je pense notamment le premier baiser, qui je trouve le contexte est assez drôle, enfin, la façon dont c'est raconté. Puis la mort de la chienne, qui pourrait être anecdotique, mais qui était tellement gore. Enfin, et je me suis demandé quelles sont vos inspirations littéraires ou musicales ou autres. Qu'est-ce qui donne finalement ce rythme ?
C'est une bonne question, mais c'est une question très difficile, la question des inspirations, parce que elles sont innombrables. Je pense que quand on écrit parce qu'on lit, parce qu'on aime lire, parce qu'on a accès à des textes, et du coup les textes nous inspirent et nous donnent envie de faire des choses. Et souvent, quand je pense à la question de ce qui inspire, une chose, enfin, en fait, l'inspiration, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, mais comme comme manger. C'est des trucs qu'on digère, qu'on métabolise et qu'après, parfois, on ressort sans même, sans plus se rendre compte même d'où vient l'inspiration. Donc, parfois, j'évite de répondre à cette question parce que je vais dire... par exemple, je vais mentionner une écrivaine qui est très importante pour moi aujourd'hui, mais pour moi, ça cache le fait que c'est innombrable. Par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, et qui m'est très important aussi, c'est que mes inspirations, elles sont totales et hyper variées. Ça veut dire que c'est aussi bien, on va dire la littérature que les jeux vidéo, parce qu'on sent ça, en fait, quand on connaît, je pense qu'il y a les couleurs du jeu vidéo quand même dans ce roman, que évidemment des films, des ciné, de la musique, de la littérature aussi bien arabophone que francophone, que du Japon. Enfin, je veux dire, on se situe dans un truc planétaire. On est des praticiens et des consommateurs de culture du monde entier. Et tout ce monde se retrouve souvent dans les livres. D'ailleurs, une chose que je trouve, pour revenir à la résidence, donc quand j'étais en résidence, c'était donc, comme je disais, le moment où je reprenais le texte. Donc j'ai eu la chance de pouvoir lire un peu tous les premiers romans qui étaient en compétition cette année-là, parce que j'étais juste à côté du local de lecture en tête, donc bon, j'avais accès aux livres, c'était trop bien. Si j'avais été en écriture, j'aurais jamais lu les livres, parce que pour le coup, quand je suis en écriture, tout ce que je lis, il y a comme une espèce de pipeline comme ça, tout ce que je lis se retrouve dans ce que j'écris. Dès que j'aime un truc, je le mets à l'écriture directe. Et donc, quand j'écris, enfin, quand je suis dans au cœur d'un projet d'écriture, bah, en fait, j'évite de lire parce que sinon, je vais tout copier. Donc, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous touche, je pense, devient une inspiration profonde. Et c'est peut-être aussi pour ça que. Ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de genres, de registres, de manières d'écrire et de parler très différentes dans ce ciel, dans ce narrateur. C'est vrai pour ce narrateur, c'est vrai en général pour ce que j'écris. C'est jamais choisi, c'est juste aussi ma manière de parler aussi en réalité, qui semble fluctuer entre des registres, mais qui est, pour moi, c'est très organiquement tout ça. La langue, c'est toutes ces choses, et on sollicite toutes ces choses en même temps. Quand on parle, quand on écrit, quand on crée des discours, quoi. Et donc ça se retrouve aussi dans le texte.
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a inspiré pour votre livre, mais en tout cas, vous nous avez proposé une musique qui est New Gold Dreams de Simple Minds. Est-ce que vous nous dire pourquoi ?
Si, alors ça va...
Peut-être pas de
en
raison.
Fait, si. En fait, New Gold Dream et Simple Minds en général, dans cet album de Simple Minds, qui s'appelle New Gold Dream aussi, vous allez entendre, je pense que c'est une chanson assez connue, il y a une espèce de proposition complètement de synthé, complètement éthérée, qui est de la même... Ça paraît abstrait, mais c'est vrai pour moi, en tout cas. Elle est de la même couleur que l'Eden Halo. Pour moi, il y a une chose de cette couleur-là qu'on retrouve dans l'Eden Halo.
Karim Katan, vous êtes de retour avec nous. Si vous le voulez bien, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait?
Oui, bien sûr.
De votre livre.
Bon, d'ailleurs, alors ça, pour le coup, c'était pas vraiment prévu comme ça, mais je pense qu'en fait, en réalité, l'extrait, il a, je vais dire, un tout petit paragraphe qui ouvre le livre, en fait, qui est un peu même un prélude, parce que le jeu qui s'exprime dans ce paragraphe n'est pas peut-être le ciel, mais en tout cas n'est pas vraiment le jeu qui va s'exprimer après. Mais donc même si c'est, enfin, je savais pas que j'allais lire juste après cette chanson, mais en fait, pour le coup, du coup, je trouve que cet extrait a quelque chose de New Gold Dream. Vraiment, voilà. Comment t'aimer dans cette ville caractérielle, si prompte à la colère, cette ville hantée par le Dieu, et qui ne me laisse pas la place de t'adorer toi plutôt que lui. Comme je voudrais être un beau vase d'éperon, bleu translucide et plus lourd que la nuit, et toi, l'artisan qui me fabrique, ton souffle et ton doigté qui me font prendre chair, tournoyer, luire, qui me distendent jusqu'à mes extrémités, millimite pour devenir l'objet exact de ton désir, ta volonté faite lueur, faite moi, ta main sur mon corps qui me fait étinceler, briller en fournaise pour fabriquer ta cocagne, ton foisonnement. Comme je voudrais être le résultat unique pour tous les temps et toutes les nuits de ton désir, façonné par ton souffle, tes poumons, ta salive.
Merci Karim Katan. Donc ce roman, comme je le disais, est très poétique, en tout cas j'ai trouvé, très sensible. Vous dites que ce livre n'est pas un témoignage. Est-ce que vous pensez que passer par le sensible soit plus efficace pour sensibiliser, justement, que de passer par peut-être des chiffres ou...
Je pense que ce sont deux stratégies différentes et puis deux rapports au monde différents. C'est-à-dire que moi, je... Par exemple, je veux dire, le témoignage, c'est quelque chose d'essentiel et d'hyper important, de crucial dans la manière de construire aussi l'histoire de la Palestine, par exemple, et l'histoire de ce qui se passe en Palestine et de comment on le documente. C'est simplement pas ce que je fais. Et la raison pour laquelle je me retrouve souvent à dire que c'est pas du témoignage, c'est parce qu'on m'assigne au témoignage. C'est qu'on me renvoie à ce truc de témoignage alors que c'est vraiment pas ce que je fais. Ce qui sensibilise... Alors c'est sûr qu'à un moment, les chiffres, malheureusement, ne sont que des chiffres. C'est-à-dire qu'on a un esprit humain qui est ce qu'il est. Il est pas, enfin, à un moment, les chiffres ne veulent plus rien dire, en fait, pour nous. Enfin, en tout cas, ne nous figurent pas grand-chose. Ce qui nous figure grand chose, c'est les intimités, en fait. C'est quand on pense aux intimités des gens, quand on imagine ce que c'est que là je vais prendre l'exemple de Gaza, évidemment, mais ça s'applique pas que à Gaza, mais là on a dépassé depuis longtemps les 50 000 morts. C'est horrible, c'est un chiffre absolument affreux, mais en fait en même temps c'est plus le chiffre augmente, moins il devient audible pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'entre 40 000 et 50 000 morts, on ne fait pas vraiment la différence, en fait, conceptuellement, nous. On ne peut pas. De toute façon, on est dans des chiffres où on ne peut pas. Mais on fait la différence, je pense, quand on se dit que chacune de ces personnes est, je ne sais pas, un enfant ou un adulte qui est mort et qui a laissé son fils ou sa mère ou je ne sais pas qui, toute seule. Enfin, c'est quand on se figure l'épaisseur du monde qui disparaît quand une personne disparaît, quand une personne est tuée. Donc c'est sûr que c'est plus efficace. Après, moi, dans mes romans, mon objectif n'est pas de sensibiliser. J'écris pas ce roman pour celui-là ou d'autres, pour réhumaniser les Palestiniens aux yeux des Français, par exemple. Si ça y contribue, c'est tant mieux. Hein, mais c'est pas, disons, mon objectif. Enfin, mon objectif, c'est de faire un objet littéraire d'abord. Mais je me rends compte souvent qu'on me dit que voilà, bah, ça permet de réhumaniser les Palestiniens. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'il faut... Enfin, je me dis... Enfin, comment dire ? S'il faut les réhumaniser, s'il faut nous réhumaniser, il y a vraiment une question à se poser sur avec quelle facilité on nous a déshumanisés aussi. Et avec quelle facilité on a accepté cette déshumanisation.
Oui. Sensibiliser, c'est rendre plus sensible aussi. Donc.
Tout à fait, c'est vrai. C'est donner... C'est rendre plus sensible dans tous les sens, dans tous les... sens du terme, c'est-à-dire rendre plus palpable, plus incarné. Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, dans le livre, j'ai relevé 7 fois, le narrateur dit « c'est comme ça ». Qu'est-ce que ça veut dire « c'est comme ça » ?
Écoute, d'ailleurs, pardon, je passe entre le vouvoiement et le tutoiement, bon, je suis désolé, mais on va voir. puisque tu l'as relevé 7 fois, je pense que peut-être que tu as une idée, mais le « c'est comme ça », c'est le...
J'aimerais entendre comment tu le vis, en fait. Comment tu ressens cette phrase, comment elle résonne en toi ?
C'est une forme de fatalité. Donc, en fait, c'est le ciel qui dit... je crois, en général, il le dit juste avant ou après avoir dit quelque chose de très lourd, enfin quelque chose d'un peu terrible. Il dit « la vie est ainsi, en fait ». C'est une forme de fatalité parce que, mine de rien, c'est pas que ça, mais l'Éden à l'aube, je crois que c'est aussi un peu une tragédie. Tragédie au sens aussi où on sait, dès le départ... On ne sait pas ce qui va se passer, mais tout est donné pour qu'on comprenne qu'on va vers une fin, peu importe la nature de cette fin, mais en tout cas une fin inévitable, qui est le destin, en fait. Il y a un destin qui se joue là, et le ciel constate ce destin, et le sait comme ça, c'est une forme de prise, enfin de fatalisme ou de fatalité qui est mise, donnée à avoir. Mais ça peut être autre chose aussi, je pense.
Oui. Pourquoi est-ce que vous écrivez ? Est-ce que... c'est une thérapie, que c'est un acte de résistance. Encore une fois, comment tu le vis ? Est-ce que c'est une question que tu te poses ?
Oui, bien sûr. On se pose la question parce qu'on se pose toujours la question de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quelle valeur ça a. Puis on se pose la question, je veux dire, dans un moment... Alors déjà, en Palestine, ça se passe de commentaires. Enfin, dans un moment de destruction totale et effrénée, mais aussi dans d'autres contextes. Enfin, je veux dire, dans le contexte français aussi, on se pose la question. Un moment où on sait tous à quel point, ici d'ailleurs particulièrement, mais ailleurs aussi, la culture, la production culturelle est attaquée de toutes parts. On se dit, bon, mais à quoi... Que permet le geste de l'écriture ? Enfin, qu'est-ce que ça fait ? J'écris parce que je reviens à ça, parce que je crois que vraiment c'est important. J'écris parce que je lis et parce qu'il y a un plaisir. C'est le plaisir d'abord, avant tout, c'est ça. C'est le plaisir de l'écriture. Il y a un vrai plaisir profond, esthétique, de l'imagination, qui est très lié au fait que je suis aussi un lecteur. Le reste vient après. C'est tout ça, je pense qu'une écriture, ça peut être une thérapie, ça peut être une... effectivement, pour revenir à cette question aussi, une forme de témoignage, ça peut être une forme de résistance, ça peut... C'est tout ça. C'est tout. En fait, c'est ça qui est incroyable dans l'écriture aussi, c'est que c'est tout. Enfin, je veux dire, ça permet tellement de choses, mais l'objet basique, c'est le plaisir. C'est-à-dire que si pour moi, je voulais, par exemple, si je voulais faire quelque chose qui soit aussi, qui témoigne d'une résistance culturelle, ça pourrait être autre chose aussi. Ça pourrait être de l'art visuel, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. C'est des choses que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais j'ai le plaisir de l'écriture fait que ça va être le mode d'expression premier. Que je vais utiliser. Et j'aime bien rappeler le plaisir, parce qu'au fond, c'est ça. En tout cas, on essaye aussi de... Ce qu'on fait, c'est un livre. C'est aussi un objet de plaisir, en fait. Et donc, ouais, c'est d'abord ça.
Pour tout le monde. Ça l'est pour tout le monde. Alors, ce livre, il est sur fond de mythologie, de légende, de croyance. On se demande finalement quand même où est passé le sacré entre le tourisme de masse, les massacres. On sait que ce sont des terres saintes, mais comment on le sent encore ? Est-ce que justement c'est pas cette relation amoureuse dans votre livre qui permet de se reconnecter à ça ?
Ouais, c'est intéressant. Ouais, peut-être. C'est intéressant parce qu'en effet, dans l'Éden à l'aube, la relation amoureuse de ces deux personnages relève un peu du sacré, c'est-à-dire même le vocabulaire qui est utilisé, c'est un peu la grammaire du sacré. Il y a beaucoup de choses Enfin, ça parle beaucoup de chair, par exemple. Mais de chair, vraiment, presque au sens chrétien du terme. Enfin, c'est vraiment un livre qui est infusé de religion. Même parfois, je dis, je ne sais pas si c'est très vrai, mais c'est, quelque part, c'est un livre très religieux, en fait. Enfin, d'ailleurs, et je pense que ça répond à la question, en fait, et ça répond aussi à la question des influences, finalement, un texte qui est derrière, qui est vraiment hyper présent, un peu au début, vraiment en arrière-plan, mais puis il arrive de plus en plus au premier plan, c'est le Cantique des Cantiques. Donc dans la Bible, qui est quand même ce texte à la fois, selon comment on lit, à la fois mystique, érotique, spirituel, plein de choses à la fois. Et donc l'Éden à l'aube, il est un peu articulé, un tout petit peu, enfin pas comme le Cantique des Cantiques, mais voilà, c'est un texte qui a complètement infusé. Et donc je pense qu'effectivement il y a un sacré qui se redéploie dans, pas tant dans la relation amoureuse elle-même, mais dans comment elle est dite, comment elle est vécue, plus que la relation elle-même. D'ailleurs c'est une relation, alors personnellement je la trouve pas, enfin je dirais pas qu'elle est chaste, parce que je pense pas du tout que c'est chaste, mais elle a un côté un peu non dépensé aussi, qui est assez, enfin un truc comme ça qui relève un peu du mystique, quoi. Enfin, je pense. Et ça permet aussi de redonner à la Palestine, pour moi. Enfin, ça, je le dis après coup, c'est en y réfléchissant maintenant que je le dis, bien sûr. Mais voilà, ça donne aussi, je crois, une charge mystique importante à mon pays, que je connais aussi comme un pays mystique. Donc, enfin, quand on dit Terre Sainte, d'ailleurs, c'est hyper religion institutionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le côté, enfin, mystique. Enfin, on investit tous les endroits d'où on vient d'une certaine mystique. C'est pas juste parce que c'est la Palestine, d'ailleurs. Enfin, j'aurais grandi ailleurs, dans un pays qui n'est pas particulièrement associé aux trois monothéismes, par exemple. Je pense que, par tempérament, je l'aurais investi d'une forme de mystique, quoi. Et donc, le livre permet de faire ça aussi, de redécouvrir ces mystiques-là qu'on investit, les territoires et les gens.
Page 67, le narrateur dit à propos de Gabriel, il ne revit plus Jérusalem jusqu'à ses 18 ans. La ville devint une chose qui n'avait pas réellement existé, un souvenir tordu de l'enfance. Est-ce que c'est ça aujourd'hui pour vous, la Palestine ? Est-ce que vous y retournez ?
Oui, j'y retourne. C'est très intéressant. Oui, j'y retourne. Alors, beaucoup plus difficilement ces deux dernières années. Alors, c'était pas non plus très facile avant, mais quand même, j'ai aussi un passeport français, donc j'ai accès à des formes de mobilité que tout le monde n'a pas, quand même. Même si en Palestine, je suis palestinien, donc je suis complètement subjugué, enfin, sous le joug de l'apartheid. Mais bon, quand même, je peux rentrer. Là, je rentre une fois par an, j'essaye un peu plus, mais c'est très très compliqué en ce moment. Ça c'est pour le côté un peu concret. Après je pense, oui c'est marrant, je me souvenais pas de ce passage, mais je pense que ça dit quelque chose d'un rapport à un territoire qui disparaît ou qu'on voit de plus en plus impossible à accéder. Même si je peux y retourner, je vois la métamorphose du territoire, la colonisation, la brutalité totale qui s'installe en Palestine. Et en effet, il y a une différence entre le pays que j'ai connu enfant, qui était déjà très occupé, enfin je veux dire, qui était déjà dans un état, enfin sous une colonisation hyper accélérée, mais entre ce pays-là et le pays aujourd'hui, quelque chose s'est perdu évidemment, et cette perte elle continue, et donc le pays de mon enfance, je n'y ai plus accès. Concrètement j'y ai accès, mais en réalité, beaucoup d'endroits ont été colonisés, on n'a pas accès à beaucoup d'endroits, donc oui, je pense que ça dit quelque chose de ça, comment ce pays qui disparaît, ou enfin qui disparaît en tout cas, qui est pris dans les affres de cette histoire, se métamorphose, et donc notre souvenir de ce pays en est impacté aussi.
Tu écris en français et en anglais. Quelle langue parles-tu et dans laquelle préfères-tu écrire ?
Alors, la langue que je parle en famille, avec ma famille, est l'arabe, l'arabe palestinien. Mais j'ai, depuis la petite enfance, depuis la maternelle, j'étais à l'école française, donc c'est pour ça que je parle français comme tu l'entends. C'est ma langue principale d'écriture. Maintenant, en plus, ça fait 15 ans, voire plus, là, que je vis en France. Donc le français, c'est ma langue d'adulte, en fait. En quelque sorte, c'est la langue de mon travail adulte. C'est devenu ma langue principale d'écriture. J'écris en effet aussi en anglais. De toute façon, un tout petit peu plus périphérique, enfin beaucoup plus périphérique qu'au français. Ça, c'est dû à mon histoire. Donc j'écris pas en arabe parce que j'étais à l'école. Je sais écrire l'arabe, mais très mal. Je le parle couramment, mais je l'écris mal. Donc je peux pas écrire un roman en arabe, par exemple. Okay. Mais le français est une langue du coup qui est devenue mon matériau, quoi, avec un matériau que j'utilise avec beaucoup de plaisir. Il y a quand même toujours un peu l'arabe derrière, par exemple dans l'Éden à l'aube. Il y a des figures de style qui sont arabes, par exemple c'est un roman, même mon écriture en général, je crois. Il y a beaucoup de répétitions, par exemple. La répétition, normalement, on apprend en français, c'est pas bien la répétition, c'est lourd, c'est lourdeau, etc. Là, dans ce projet poétique, quand même, en arabe, en hébreu aussi, la répétition, c'est une beauté du style. Donc on va avoir des formes de répétition comme ça, qu'on retrouve ici. Enfin voilà, c'est une espèce de survivance un peu comme ça, de l'arabe derrière qu'on va retrouver. Donc les langues, elles sont poreuses un tout petit peu les unes entre les autres. Elles se retrouvent dans des moments comme ça.
Comment fait-on aujourd'hui pour publier un livre quand on est palestinien? Est-ce qu'il faut forcément passer par l'étranger, par d'autres pays? Comment on fait?
Pour moi, la question se posait différemment vu que j'écrivais déjà en français. Donc nécessairement, ça allait être dans d'autres pays. Mais il y a des éditeurs arabophones palestiniens qui font du super travail. Quand on écrit en arabe, on peut publier sans problème. L'une des questions, c'est comment le livre circule. Donc, quand on écrit en arabe, on voudrait déjà au moins que le livre puisse circuler à travers le monde arabe et le monde arabophone. Donc il y a aussi beaucoup d'éditeurs, vous savez, les grands centres de l'édition, c'est quand même, aujourd'hui en tout cas, c'est Beyrouth et Le Caire. Donc, beaucoup des grands éditeurs sont à Beyrouth et au Caire, donc je pense qu'on va, si on cherche un grand par exemple, on va plutôt aller à Beyrouth et au Caire. Mais il y a plein de maisons d'édition, et bon, c'est vivace. Alors effectivement, c'est compliqué parce que, comme on le sait, le livre, de façon générale, est un bien qui ne circule pas beaucoup, en fait. Donc quand il s'agit de le faire passer d'un pays à l'autre, c'est une grande difficulté. Moi, j'ai une autre chance, c'est que je publie mes romans chez Elizade, qui est un éditeur extraordinaire, basé en Tunisie. Donc c'est très intéressant parce que du coup, je publie de la littérature d'expression française ou francophone dans un pays francophone qui n'est pas la France. Donc ça permet aussi de décentrer un peu la France de la production littéraire française, enfin d'expression française. Et donc ça permet voilà, de jouer un peu, d'avoir de la marge de création différente, puisque voilà, on étend un peu ce qu'on imagine être la littérature d'expression française.
Et alors peut-être une dernière question. Quel conseil vous donneriez à un jeune palestinien ou une jeune palestinienne qui voudrait écrire?
Ou un jeune qui voudrait écrire en général, même. Je pense qu'il y a un truc, souvent, quand on écrit, de l'ordre de l'arrogance, qu'on a tous, hein, je ne veux pas dire, qui est qu'on va écrire quelque chose. C'est nécessairement mauvais, ce qu'on écrit. En fait, c'est mon conseil, c'est qu'il faut savoir et accepter que ce qu'on écrit est évidemment nul au début. C'est inévitable. Enfin, je veux dire, ce qu'on écrit, c'est de la merde. Et puis, on continue à écrire et au fur et à mesure, on travaille cette merde et on la travaille. Et c'est à force d'un retour, d'un travail, d'une forme d'artisanat sur ce matériau qu'on peut arriver à quelque chose qui peut-être nous satisfait. Et souvent, mais je dis ça, je vais pas dépasser ça. Si on va écrire quelque chose, ça va être nul. Enfin, en tout cas, ça va pas correspondre à ce qu'on pensait. Et on va un peu s'en arrêter là, parce qu'on va se dire, bon bah ça sert à rien, c'est nul, pourquoi? Or, le travail d'écriture, c'est un travail, c'est une pratique en fait, et par pratique, je veux dire qu'on le fait, puis on l'améliore, puis on y revient, puis on y revient, puis si on a de la chance d'avoir des gens en qui on a confiance, à qui on peut demander des lectures bienveillantes, mais critiques, on va travailler ce matériau pour en faire quelque chose. Et moi, le moment où je me suis rendu compte de ça, ça m'a beaucoup libéré. Parce que c'est là, pour ça que je parle d'arrogance, c'est parce qu'on se dit, je vais écrire, si c'est pas bien, c'est que c'est nul. Or, c'est pas bien ou nul, c'est un processus, et il faut laisser le temps au processus, enfin, il faut donner le temps qu'il faut à ce processus. Et avoir confiance dans le fait qu'une pratique, ben, c'est toujours une amélioration. Je pense que ça, c'est très important.
Ne pas tomber amoureux de la première version.
En plus, oui, certainement pas. Parce que c'est jamais bon. Hein. C'est jamais, jamais bon.
Très bien. Alors, on pourra peut-être se quitter sur une deuxième musique que vous nous avez proposée, Plutôt, de Ravina. Est-ce que vous voulez nous dire peut-être pourquoi ?
C'est trop beau déjà. C'est une chanson, c'est une très belle chanson, très légère et profonde en même temps sur l'amour. Et du coup, ça correspond très bien à l'Eden Amour.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Bon festival.
Merci. We had to say goodbye, but you reappear as a butterfly. It's not like Earth sides better, but some days I wish you were here. Some days the sun hits perfect on my face, and some days it's hidden ones in city hellscapes. We took a day to remember how I wish you could see 28. Pushing 80 in a blue Camaro. New love got my mind up in Pluto. Watching smoke down in the clouds from the backseat. I pray this good thing to run away from me.
Before you left, you asked where do butterflies go in the rain.
I don't need proof that angels exist. You showed me how nature is the proof of bliss. But I'll keep repeating the same old mistakes. It's an animal habit, I'm in of a break.
So I'm pushing 80 in a blue Camaro. New love got my mind up in Pluto. Watching smoke down in the clouds from the back.
Good.